J'ai dit et j'ai montré que les disciples de Jésus, avant la Pentecôte, étaient vraiment des personnes sur qui on ne pouvait pas du tout, mais alors pas du tout compter. Pas du tout. J'ai montré qu'ils avaient du mal à prier. Ils étaient dans un sommeil profond. Et le jour où on a arrêté le Seigneur, on les a vus au ronflant pratiquement. Enfin, on ne les a pas vus, je n'étais pas là, toi tu n'étais pas là non plus. Mais quand on lit les Écritures, ils étaient quasiment morts de sommeil. Et pourtant, Matthieu nous retrace les paroles, Luc nous retrace les paroles qu'il prononçait. Et j'ai conclu que si on nous retrace les paroles qu'il prononçait, ça veut dire que le Seigneur parlait fort. Ça veut dire qu'il parlait fort. Et enfin, il parlait en tout cas à haute voix. Et donc, comme il parlait à haute voix, les disciples entendaient ce qu'il disait. Mais ils étaient... Vous voyez, des fois, quand vous dormez, vous entendez des fois ce qu'on vous dit. Mais vous ne pouvez pas vous réveiller. Alors que le sommeil vous a tellement pris que vous dormez, mais vous entendez ce qu'on dit. On dit, lève-toi, tu as mangé. J'ai compris. Ouais, tu entends ce qu'on dit, tu sais ce qu'on veut. Tu sais ce qu'on veut, on te veut. Mais la fatigue, enfin, pas la fatigue, le sommeil t'a tellement pris que tu distingues, mais tu ne peux pas. Donc j'ai vu par là que les disciples étaient dans un vrai sommeil. Et que ce sommeil physique traduisait le sommeil spirituel. Et j'ai dit dimanche passé que beaucoup de personnes parmi nous sommes dans le cas des disciples de Jésus qui sommeillons. Regardez combien de fois on a du mal à prier. Combien de fois on a du mal à prier. Combien de fois on a du mal à nous réveiller dimanche matin pour nous préparer à aller au culte. Combien de fois c'est une preuve qu'on est dans un sommeil spirituel. Il y a des choses qui trompent, il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des médecins parmi nous. Il y a des signes cliniques qui montrent que tu n'es pas bien portant. Tu es fatigué, tu as commencé à avoir des boutons ici. La fièvre monte à 37, 38, pas 37, mais à 38 degrés, 39 degrés. La fièvre t'indique que ton corps n'est pas en bon état. Quand tu as 39 de fièvre, on dit ton corps, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être le palud, ça peut être autre chose, mais c'est que sûr, la fièvre indique que tu n'es pas bien. Et si tu vas à l'hôpital, après les médecins peuvent dire, bon, tu as le palud, tu as la typhoïde, tu as autre chose, mais en tout cas, du moins, la fièvre t'indique. Et vous voyez qu'il y a des signes qui nous montrent qu'au plan spirituel, nous n'allons pas bien. Chaque fois que vous avez du mal à prier, chaque fois que vous avez du mal à adorer Dieu réellement et profondément, pas parce que vous demandez quelque chose, parce que vous demandez quelque chose, mais parce que vous voulez simplement être proche de lui, mais que vous avez du mal à le faire. Chaque fois que vous priez, que vous cherchez vos mots, qu'après 5 minutes, vous n'avez plus rien à dire, enfin, je te prie pour quoi même? Non, bon, ma tante au village, elle est malade. Seigneur, prie ma tante, elle est malade, le village. Aide-la, Seigneur. Oh, amène-moi sur ta parole. Amène-moi sur ta parole. Hé, hey, bienvenue, Saint-Esprit. Hé, hey, non, mais c'est vrai. L'autre jour, quelqu'un m'a insulté. Seigneur, pardonne mon péché. Vous voyez, quand les prières sont décousues, sans aucun rapport entre eux, c'est que tu es dans un sommeil spirituel. Est-ce que quelqu'un se reconnaît ce matin? Vous-même, faites vos propres examens. Chaque fois que vos prières sont décousues, c'est que vous êtes, parce que vous ne trouvez pas les mots. La Bible déclare que c'est en esprit qu'on dit des mystères à Dieu. Donc, j'ai montré les hommes des disciples. J'ai aussi montré les hommes des disciples qui ont fui le Seigneur. Ils l'ont abandonné. Vous avez trouvé ça dans Matthieu chapitre 26, verset 30 à 46. Ils l'ont abandonné. Ils ont fui. Et pourtant, ils le connaissaient. On a même vu Pierre qui était un peu plus courageux. Pierre a régné le Seigneur. J'ai montré dimanche passé que il est tout à. Pour moi, le régnement de Pierre et la traîtrise ou la trahison de Judas sont quasiment au même niveau. Pratiquement. En termes d'infraction d'ordre moral, c'est pratiquement la même chose. Quasiment la même chose. Donc, on voit par là que quand une personne n'est pas en connexion avec le Saint-Esprit, elle peut faire des efforts, mais ça ne marche pas. Pierre a été le plus courageux parmi les autres. Il a essayé. Il est même entré dans la cour. Mais quand on l'a reconnu, il a commencé à nier. Donc, on voit que ses disciples, avant le Saint-Esprit, avaient du mal à pouvoir, n'est-ce pas, exprimer leur foi. Mais ils étaient aussi pleins ou remplis d'incrédulité. C'est ce que j'ai montré dimanche passé. Et j'ai indiqué dimanche passé qu'il était important pour nous de chercher une communion avec le Saint-Esprit. Une communion avec le Saint-Esprit. Bien sûr, bien sûr. Je vais faire une précision théologique importante. Avant la Pentecôte,
le Saint-Esprit n'était pas encore venu, n'était pas encore répandu. Mais depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit est déjà venu. C'est pourquoi il y a des chansons que nous chantons, on dit le Saint-Esprit descend. Pour moi, ce n'est pas biblique. Le Saint-Esprit est déjà descendu. On peut le demander sur plus, on peut lui demander qu'il se manifeste, mais il est déjà descendu. Il est descendu une fois, il est descendu parmi nous. Donc on peut chanter, bienvenue Saint-Esprit. Il est là, mais bienvenue. Quand la personne dit bienvenue, mais on ne peut plus demander de descendre, parce qu'il est déjà descendu. Il est descendu pour remplir les cœurs. C'est pourquoi même une personne qui ne connaît pas Dieu, quand elle entend la parole, elle peut être convaincue de péché, de justice et de jugement par qui? Par le Saint-Esprit qui est là et qui a. La Saint-Esprit est toujours associée à la parole. Le Saint-Esprit n'est pas dans la nature comme ça, ne se promène pas dans la nature. Hein, non. Il est associé à la parole. Soit une parole écrite, soit une parole chantée, soit une parole prêchée ou proclamée ou entendue. Mais quand la parole de Dieu passe, le Saint-Esprit est associé à la parole. Le Saint-Esprit accompagne la parole. Donc, c'est celui qui l'entend, quand elle entend cette parole, son cœur est convaincu et en même temps, elle peut se repentir. Le Saint-Esprit l'amène à se repentir et à changer de vie. Donc, je voulais faire cette précision. Afin que nous ne puissions pas dire, comme à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit encore descend à nouveau. Il est déjà descendu. Maintenant, si nous ne sommes pas, ou si nous manifestons les signes cliniques des disciples d'avant la Pentecôte, ça signifie que nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, ou du moins, l'Esprit de Dieu a tellement été frustré, attristé, qu'il ne se manifeste plus, on ne l'entend plus. Vous voyez que, j'ai donné cet exemple-là, et je vais le donner. Je vais donner l'exemple pour ceux qui sont mariés. Vous êtes marié avec votre femme ou avec votre mari, vous êtes à la maison, sous le même lit, mais vous ne parlez pas, vous boudez. Et les mariés, dites-moi la vérité, est-ce que vous ne vous boudez pas? Pendant 2 jours, vous boudez, non? Pour prendre un verre, tant que tu fais l'effort, vous boudez, vous ne vous parlez pas, vous êtes là. Vous voyez, vous êtes ensemble, mais il n'y a aucune, non? Répondez-moi, aidez-moi. Il n'y a aucune, non, communion. Donc même quand l'autre parle, tu ne cherches même pas, d'abord quand elle parle, ça t'énerve. Ça t'énerve parce que vous êtes en palabre, il t'a insulté grave. Tu cherches même à te venger. Pas te venger. Donc tout ce qu'il fait, ça t'énerve. La personne est là, mais il n'y a aucune communion entre vous. Tu ne veux pas dire je vais marier, tu es déjà marié. Mais il n'y a aucune communion. C'est ce qui se passe en fait quand on est enfant de Dieu et qu'on n'est pas en communion avec le Saint-Esprit. On est dans la tutelle d'une personne qui est mariée et qui est en conflit avec son mari et qui ne parle plus avec son mari. Ou qui ne parle plus avec sa femme ou à sa femme. C'est un peu un tout petit peu ça. Donc pour que, n'est-ce pas, la communion revienne, il faut, n'est-ce pas, se parler. Et donc quand on est né de nouveau, le Saint-Esprit nous convainc de péché, de jugement et de justice. Tout à l'heure je vais revenir à cela. C'est lui qui nous convainc. Maintenant pour marcher avec le Seigneur et faire son œuvre, on a besoin d'être revêtu. C'est vrai qu'au plan théologique, il y a des débats. Il y en a qui pensent que quand on a cru au Seigneur, c'est suffisant. On n'a plus besoin d'un revêtement. Moi, je fais partie de ceux qui croient que quand on a cru au Seigneur, on a besoin d'un revêtement. On a besoin d'un revêtement. Et là, c'est en vue du ministère. Alors, ce que je vais dire maintenant, c'est que quand le Saint-Esprit vient en nous, voici ce qu'il fait. Le Saint-Esprit, quand il vient en nous, il fait deux choses. Il fait deux choses qu'on abordera peut-être dans les mois, semaines à venir. Je parlerai de l'onction. Il y a l'onction. Il fait une œuvre intérieure et il fait une œuvre extérieure. Il y a ce qu'on appelle l'onction intérieure et l'onction extérieure. On en parlera. Je montrerai cela. On va prendre un temps pour enseigner cela sur moins de 3 mois. Parce que c'est un enseignement clé. On est libéré, on est guéri, on est sauvé par cela et on avance. Maintenant, je vais mettre l'accent sur l'aspect intérieur. Et j'insisterai sur un point. Il nous convainc. Je montrerai comment le Saint-Esprit nous convainc à faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais qui sont importantes pour l'accomplissement du royaume de Dieu et du plan de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Prenez vos Bibles dans Jean chapitre 16. On ne va pas lire tout le passage parce que bon, le temps est assez, bon, pas forcément court, mais bon, on va le gérer. Jean chapitre 16. Oh, je pense que je peux le lire assez rapidement.
Verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant, les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous parlera de lui, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen et amen. Je vais insister sur un petit mot ici. Il est avantageux. Il est avantageux. Qui parlait ici aux disciples? Qui leur parlait ici? Jésus parle aux disciples. Le Messie promis, dont Esaïe a parlé. Le Shiloh dont parle l'Ancien Testament. C'est de lui qu'il s'agit. L'ancien des jours qu'a vu le prophète Daniel. La pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main, dont parlait Daniel chapitre 2, c'est de lui qu'il parle, c'est de lui qu'il s'agit. Celui qui est venu accomplir une œuvre expiatoire, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est avantageux. Il dit, c'est mieux, il est meilleur que moi je m'en aille. Parce que quand Christ était sur la terre, il ne pouvait qu'être dans un endroit une fois et en même temps. Il ne peut pas être ici et peut être ailleurs. Donc il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Donc si le Seigneur estime qu'il est avantageux pour nous, les disciples, maintenant, avant et maintenant, qu'il s'en aille, ça veut dire que celui qui vient, il est vraiment très, très important. Dans nos églises, on a mis le Saint-Esprit de côté. Et si les situations sont compliquées, c'est parce qu'on a oublié cette phrase-là. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne vais pas, le consolateur ne viendra pas. Et je vais citer les passages qui nous indiquent ce que va faire le consolateur, le paraclet. Je dis quelque chose. Dans l'histoire, quand on étudie l'histoire des mouvements religieux, quand on fait une étude de l'histoire des mouvements religieux, le mouvement religieux, bon, je parle comme un intellectuel, mais bon, y compris tous les mouvements, hein, c'est-à-dire tous les mouvements religieux, catholiques, protestants, musulmans, bouddhistes, hindouistes, juifs, et puis quoi encore Vaudou, quoi encore Kokangba, bon. Quand on fait le mouvement, quand on fait l'analyse de tout ce mouvement, le constat qui a été fait est que le mouvement charismatique, donc pentecôtisant, pentecôtiste, est le mouvement qui a connu le plus de croissance que n'importe quel mouvement religieux. À moins d'un siècle. Ça a commencé à Azusa Street en 1906, ça même pas quoi un siècle. Quand on passe au mouvement charismatique de cette période, d'avoir un mouvement pentecôtiste qui plus tard a donné naissance au mouvement charismatique avec, n'est-ce pas, les guérisons, tout le reste, ce mouvement qui n'a même pas un siècle, à peu près un siècle, a connu le taux de croissance le plus élevé que n'importe quel mouvement. Et ça, on parle de centaines de millions de personnes. À cause de quoi? À cause de l'action surnaturelle du Saint-Esprit. À moins d'un siècle. Donc si nous sommes enfants de Dieu et que nous mettons de côté le Saint-Esprit, on ne peut pas s'en sortir. Je vais arriver à cela progressivement. Même pour bâtir une église, comme ce que sont en train de faire le tel robot, pour lequel le frère Georges a souvent des insomnies. Il faut savoir que ici, sans l'action du Saint-Esprit, nous serions impossibles. On va transpirer longtemps. Quelqu'un va avoir son argent, ça sera collé ici. Il va donner 1000 francs s'il est trop content. Ça, quand tu vas parler de construction d'église, va te fâcher, il sera énervé. Tu le nerves. Il a quelque chose à faire après. Là, je suis acheté à 800 000. Je suis en train d'exagérer un peu. Mais pour dire qu'il va avoir une disproportion en termes de priorité.
ça ne sera pas les mêmes priorités parce que cette personne n'est pas en connexion avec le Saint-Esprit. Son cœur n'a pas été marqué, marketé. Ça ne marchera pas. Tu vas crier, crier, dire, oh, tu aimes trop parler d'argent. Je vais vous montrer qu'on ne peut pas avoir le réveil spirituel si on n'est pas en connexion. En connexion, c'est un terme informatique, hein? En connexion avec le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, connexion. Pas avec Facebook, connexion avec le Saint-Esprit. Connexion avec le Saint-Esprit. Voici pourquoi l'Église a connu un embrasement généralisé. Je dis bien embrasement généralisé à cause du Saint-Esprit. Donc le Seigneur insiste sur ce qu'il va faire. S'il est avantageux pour lui qu'il s'en aille, c'est parce qu'il va faire quelque chose. On va voir ce qu'il va faire. Il dit, il va demeurer en vous. Il y a 10 choses que va faire le Saint-Esprit. 10 choses, selon Jean chapitre 16 et Jean chapitre 14. 10 choses. 10 actions intérieures qu'il fera. À la fin, intérieure et extérieure. Première chose qu'il fera, il va demeurer en vous. Pourquoi est avantageux que le Saint-Esprit vienne selon le Seigneur? C'est parce que le Saint-Esprit va habiter en vous. Quand Jésus était sur la terre, il n'habitait pas en Pierre, il n'habitait pas en Jean. Comment on appelle Jésus-Christ? On l'appelle Emmanuel. Il signifie quoi? Dieu avec, oh, Dieu avec nous. Donc, quand Jésus est venu, on l'appelait Dieu avec nous. Mais il fallait après que ce ne soit plus Dieu avec nous, ce soit Dieu en Dieu à nous. Donc, Jésus-Christ vient comme Dieu avec nous. Il reste avec les disciples. Il va à la croix. Il accomplit la mission. Il dit, tout est accompli. Il ressuscite. Il reste avec les disciples pendant quelques jours. Et puis, il leur dit, là, ce n'est pas ici, mais dans Actes, il faut que je parte. Et quand il parle du Saint-Esprit, il parle de l'Esprit qui sera plus seulement avec eux, mais qui sera où? Qui sera en eux. Première chose, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Il vient résider en nous. C'est la puissance de Dieu qui vient en nous. Écoute-moi très bien. Quand je parle du Saint-Esprit, je ne parle pas de trembler, d'avoir chair de poule. Je ne parle pas de ça. Je parle de l'Esprit de Dieu qui était au commencement. Il dit au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. La terre était ferme et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. La connexion entre la parole et la lumière et le Saint-Esprit ont provoqué la lumière. Ça, c'est cet esprit-là. Mais en même temps, on aura l'occasion de voir cela. Hein. Je suis un peu toujours dans la considération un peu générale. En même temps, ce même esprit est venu et c'est lui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Ce même esprit-là. Alors imaginons, l'esprit du grand Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux et l'esprit du grand Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vient habiter en nous. Il va venir habiter en toi, c'est gâté. Ouais. Ta vie peut être la même. J'espère qu'on se comprend. Ta vie ne peut pas être la même. Si ta vie est la même, ça veut dire que tu n'es plus en communion avec lui. Parce que l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts à la nation, il t'apporte le feu, la puissance. Les mêmes personnes fuyant, régnant, jurant. Les mêmes personnes ont dit au Sanhédrin, mais voici, c'est moi Pierre. Je l'ai vu, mort et ressuscité. Si vous voulez, il est mieux d'obéir aux hommes car. Non, il est mieux d'obéir à Dieu qu'aux hommes. En clair, si vous voulez, vous le tuez. On est prêt à mourir. Les mêmes personnes. En espace de deux mois, à peu près, ces mêmes personnes. Leur vie a été radicalement changée. Pourquoi? Le Saint-Esprit était en eux. Il faut dire Amen. Deuxième chose que fait le Saint-Esprit, selon ce que j'ai noté, la deuxième chose, il nous enseignera la parole de Dieu. C'est ce qu'il écrit. Il dit, il va vous enseigner toutes choses. C'est parce qu'on avait lu tout à l'heure. Il va vous enseigner toutes choses. Des fois, on prend la Bible, on lit, on ne comprend absolument rien. Alors, comme on ne comprend pas, on va dans Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même les chanteurs reggae chantent ça. Ou Psaume 91. Celui qui. Et puis, qu'est-ce que c'est encore? Même les païens utilisent les psaumes. Donc si toi, ta méditation quotidienne, c'est toujours psaume, que je ne vois pas, il faut lire Apocalypse. On parle à Bête qui a 10 cônes, il faut lire ça aussi. Il faut Lévitique. Il faut lire tout ça, là, c'est la Bible, hein. C'est un livre entier.
En fait, juste pour vous faire un peu rire, vous amener à comprendre l'importance du Saint-Esprit, il va vous enseigner toutes choses. Moi, des fois, il m'arrive de lire la parole de Dieu, et puis je dis, waouh! C'est comme si quelque chose que je découvre la première fois, ça fait des années depuis que je suis enfant, depuis le CM2, depuis que je suis enfant, je lis la Bible tous les jours pratiquement. Et il y a des choses que je ne connais pas encore, et quand je vois, ça dit, waouh! C'est extraordinaire! Il viendra et vous enseignera toutes choses. La dernière fois, j'ai répété ceci, que quand vous êtes en train de prier, ou que vous êtes en train de lire la Bible, à un moment donné, un passage qui était muet prend un sens particulier. C'est comme le passage de main. C'est comme s'il est animé. Dieu est en train de vous faire quoi? En train de vous parler et en train de vous enseigner. Il viendra pour vous enseigner. C'est pourquoi tout enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, peut comprendre. Il ne va pas tout comprendre. Il va comprendre progressivement. Il aura le logos, mais il aura surtout le réma. Et quand tu prêches la parole, on dit, mais tiens, tu sors ça d'où? Oui, mais c'est dedans. C'est dans les Écritures. Le Saint-Esprit viendra, il vous, va vous enseigner. Troisième chose qu'il fera, il vous rappellera toutes, il vous rappellera les promesses de Dieu. C'est important parce que des fois, on manque de foi. Et ce matin, je suis venu à l'église tout content. Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu me parle, soit en songe, ou par des visions, ou de manière intérieure, je note ce qu'il me dit. Et donc, quand je note ce qu'il me dit et que je relis les promesses de Dieu, je suis content. Des fois, tu pries pour la même chose, alors que Dieu t'a déjà dit qu'il va t'exaucer. Donc, tu dis, Seigneur, s'il te plaît, il t'a dit exaucer. Donc, quand tu pries, le Saint-Esprit te rappelle que cette promesse a déjà été exaucée. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On ne prie plus, on ne demande plus. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On fait action de grâce. On rend grâce à Dieu. Seigneur, je te remercie parce que tu m'as exaucé. Tu n'es plus en train de demander quelque chose. Tu rends grâce à Dieu parce qu'il va le faire. Et c'est pas Paul pour dire, rendez grâce en toutes choses. Par les prières et les supplications avec action de grâce. Donc vous voyez que la prière qui a la demande, mais à l'intérieur de la prière, il y a l'aspect, on rend grâce à Dieu. Je te remercie Seigneur parce que tu m'as rendu grand. Alors que tu n'es pas encore grand. Je te remercie parce que j'ai des enfants. Tu n'as pas encore d'enfants, mais tu nous rends grâce parce qu'il t'a montré ça. Soit en vision, soit en songe, ou quelqu'un t'a parlé, tu as vu ça. Seigneur, je te rends grâce parce que je suis marié. Bon, pour les choses humaines, pratiques. Je te rends grâce parce que je vais arriver. C'est fait au ciel. Et en rendant grâce à Dieu, en le remerciant, tu actives l'accomplissement du ciel jusqu'à la terre. Ou bien, si vous voulez, jusqu'à la terre. Donc, le Saint-Esprit nous rappelle les promesses de Dieu. Il nous rappelle les enseignements de Dieu. Quatrième chose qu'il fait, tout ça c'est encore intérieur, le Saint-Esprit nous console de tout. Bien sûr, quand on passe en consolation, on passe un peu à ceux qui ont perdu des parents, ça c'est vrai. Mais consolation intérieure, parce qu'on vit une solitude réelle, on vit des choses terribles que personne ne peut comprendre, même pas le pasteur, personne ne peut comprendre ça. Tu as besoin d'une force intérieure pour te consoler, te fortifier. Parce que consoler, ça va un peu l'aider de fortifier, exhorter, tu encourager. Tu as besoin de cela. Le Saint-Esprit le fait. Donc, quand tu es en communion avec le Saint-Esprit, il te console. Même au sein des épreuves. Pas parce que tu as tué quelqu'un, mais à cause de ta foi et à cause des décisions, tu peux subir de l'injustice. Grave. Quelqu'un dit, tant que tu ne sois pas avec moi, je te renvoie. Tu as fait comment? Tu as quitté son travail? Tu vas te retrouver où? Sans maison, en galère. C'est-à-dire, voilà, ton Jésus t'a humilié. Là, le Saint-Esprit vient te consoler pour dire, il vaut mieux la honte de maintenant et entrer la gloire à venir. Le Saint-Esprit nous console. Cinquième chose qu'il fait, quand il vient à nous, il nous convainc. Il nous convainc, mais convainc aussi le monde de péché, de justice et de jugement. Je vais mettre un accent sur cela. Quelques aspects sur ça. Le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Il nous convainc par rapport à la justice de Dieu. Par rapport à tout ce qui est lié à la justice de Dieu. Ce qui est juste, c'est ce qui est égal, équitable, c'est vrai. Encore que la justice est différente de l'équité. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand le Saint-Esprit vient, qu'il te convainc, il te convainc à faire des choses. À faire des choses qui sont conformes à la justice de Dieu. Un exemple pratique. Nous sommes en train de construire le temple, l'hôtel Rebot. Parce que je ne vais pas m'éloigner de mon thème, de l'objectif qu'on veut atteindre avant la fin de l'année. Pendant qu'on parle, pendant qu'on fait des annonces depuis quelques semaines, Dieu te convainc de vendre ton terrain. Par exemple, tu dis non, c'est Satan qui m'a parlé. Satan ne peut jamais te parler. Satan peut te vendre un terrain pour nous.
pour construire l'église.
Il y a des choses que Satan ne fait jamais. Il y a des choses que Satan ne fait absolument jamais. Ce n'est pas dans son intérêt. Si tu as envie de gêner prier, Satan peut te dire qu'il faut aller gêner prier. Et Satan te dit qu'il faut pécher grave. Ça, il te dit ça. Mais vends un terrain pour donner l'argent à Dieu. Pendant que je parle, ce que tu dis maintenant est vrai. Il y a 3 jours, tu m'as parlé d'un frère qui veut s'engager à construire sa maison, sa propre maison. Il est très chaud pour le faire. Moi, je l'encourage d'abord à investir pour la construction de la maison de Dieu. Et puis après, il va faire sa maison. S'il le fait, il sera béni. Là, c'est vrai. Tu m'as parlé de ça. Sérieusement même. Je connais la personne. Je connais son nom. Je sais qui c'est. Exactement. Je connais son nom. C'est où elle travaille, c'est qu'elle fait. Ouais, quand je vous paye, je vous donne tout. Mais comme c'est particulier, je ne vais pas donner son nom. Ça fait 3 jours que je m'appelle ce frère-là. Il est très chaud pour bâtir sa maison. C'est pour une préoccupation réelle. Il veut investir beaucoup de millions. Je lui demande, bâtis d'abord la maison de Dieu. Ou contribue à bâtir sa maison. Et alors, tu pourras bâtir pour toi. Et tu vas voir ce qui va se passer. Gloire à Dieu. Ah, il y a des choses pour lesquelles on ne dit pas comme ça. Hein, parce que c'est trop chaud. Il nous convainc de faire des choses, des fois, qui nous coûtent cher. Il y a 3 jours en arrière, j'étais à l'université, une jeune dame qui veut faire master en droit de contentieux, dont je suis le directeur, est venue, elle me dit, elle parle à la secrétaire, à ma secrétaire, elle dit, bon, je vais faire le master en droit de contentieux. Ça coûte cher. Ça coûte environ 1 million 200 000 francs pour les travailleurs, 850 000 francs pour les étudiants, sans frais de dossier. Quand elle veut faire le dossier, ça fait presque 1 million. Ça va, ce qu'elle a fait. Elle dit, mais elle veut des facilités de paiement. C'est ce qu'elle m'a dit. Je lui ai dit, fais une demande, adresse la demande au directeur. Je vais l'examiner attentivement et dis dans la demande, qu'est-ce que tu peux faire ou qu'est-ce que tu as pour rembourser, enfin, pour payer la scolarité. Voilà ce qu'elle me dit. Elle m'a dit, elle a un terrain à Niaman, qu'elle a vendu ce terrain-là parce qu'elle veut s'inscrire pour faire le master en droit des contentieux. Ça m'a donné une révélation. Voici une personne qui est prête à vendre son terrain à Niaman. Histoire vraie. Université de Cocody. Vendre son terrain pour faire quoi? Assurer sa formation en vue d'avoir un emploi stable. Une histoire vraie aussi, dont le VP a bien parlé. Dans une église, on parlait de construction de l'achat des terrains. Il y a un monsieur qui était assis dans l'église. Il avait 2 terrains. Son fils dit au père, toi tu as 2 terrains, il faut donner un à l'église. Il tape son fils, tais-toi. Dieu parlait par le Saint-Esprit à travers l'enfant. Il dit à l'enfant, il faut des terres. Il dit, mais papa, tu as 2 terrains, donne ça à l'église. Des fois, Dieu te parle, il te convainc. Tu sais que c'est vrai. Mais le prix à payer est trop lourd. Tu n'as pas envie de le faire, mon frère, il faut le faire. Parce qu'il nous convainc de péché, de jugement et de quoi? Et de quoi? Et de justice, la justice par rapport au royaume de Dieu. La justice par rapport à l'avancement de son règne. Si ce matin, il te convainc de justice, alors il faut t'exécuter. Ce qu'on croit souvent, on pense que cet esprit, c'est juste pour qu'on parle la langue. Non, il vient te convaincre de justice également. Sixième chose qu'il fait, il y a juste 10 minutes pour finir. Il te conduit dans la vérité. La vérité, c'est aussi ce qui est conforme avec la réalité, mais c'est ce qui est conforme avec la vérité divine. Il te convainc. Et même si tu peux avoir quelquefois des erreurs dans ton cœur, le Saint-Esprit te ramène sur la parole. Ramène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Amène-moi sur ta parole. Amène-moi sur ta parole. Voilà, il te convainc et t'amène sur la parole de Dieu. Au début, j'ai dit ceci. Que chaque fois que vous venez à l'église, c'est une preuve que vous aimez Dieu. Regardez avec moi. C'est une preuve que vous aimez Dieu parce que personne ne vous oblige à venir. Vous payez votre transport. Mais vous êtes dans une situation compliquée. Dis, Seigneur, je me sens faible, je ne peux pas y arriver. Conduis-moi dans la vérité, aide-moi. Vous voyez, le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans la vérité, à triompher des choses qui, n'est-ce pas, ont tendance à nous dominer. Septième chose qu'il fera, il te parle, il parlera. Il parlera de moi, mais le Saint-Esprit parle. Il te dit des choses qui sont vraies sur ta vie ou sur quelqu'un d'autre.
nous en Afrique et en Côte d'Ivoire, on est tellement habitué à ce que les démons parlent qu'on pense qu'en tout temps, c'est le démon qui nous parle. Comment distinguer la voix du Saint-Esprit de celle de Satan? Chaque fois que ce qui t'est dit est conforme avec la parole de Dieu, c'est que c'est Dieu. C'est le Saint-Esprit. Chaque fois qu'il te dit qu'il faut t'engager à l'église un peu plus, ou bien tu veux toujours en retard, ça c'est Dieu qui te parle. Satan a quel intérêt pour que tu dis qu'il faut aller à l'église à l'heure? Jamais. Ça ne l'arrange pas. Des fois on dit, oh non, c'est ma conscience. Non, le Saint-Esprit se trouve en toi. Il dit, tu es trop infidèle. Il y a des choses auxquelles on est trop infidèle. Pourquoi est-ce que je le dis? Mais parce qu'en cas d'urgence, on est capable de faire ce qu'on ne fait pas avant. Vrai ou faux? Ça montre par là qu'on sait faire les choses. On peut le faire et on sait le faire. On a les capacités. Mais comme on n'a aucune communion, on ne le fait pas. Ça montre par là que le Saint-Esprit est quasiment éteint en nous. Enfin, du moins, on l'a éteint. Septième chose, huitième chose, le Saint-Esprit vient glorifier Jésus. Huitième chose, il vient nous remplir. Neuvième chose, il vient nous remplir. Dixième chose, il nous révèle de puissance. On aura l'occasion d'aborder l'aspect de puissance. On va avoir l'occasion d'aborder cela progressivement. On verra les dons spirituels. Mais je vais dans cette première partie de l'enseignement, je suis en train de vous montrer que la connexion avec le Saint-Esprit est essentielle. Quand on regarde bien les 10 choses que accomplit le Saint-Esprit en nous, vous verrez bien que toutes ces choses touchent à se résument en un seul mot. Quand le Saint-Esprit vient, il fait de nous des témoins. Tu peux dire Amen. Tu peux dire Amen. Faites plus comme ça. Voilà. Ça, c'est ma nouvelle phase. Quand le Saint-Esprit vient, il fait de nous des témoins. Regardez vos Bibles dans Actes chapitre 1. Ce que je dis, tout ce qui a été dit dans Jean chapitre 14, Jean chapitre 16, tout ce qui a été dit, les 10 choses que j'ai dites, trouvent l'accomplissement dans le fait que le Saint-Esprit fait de nous des témoins. Actes chapitre 1, le verset 3. Actes 1, 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis leur demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous, vous recevez une puissance. Non, je vais m'arrêter là d'abord, avant d'aller sur vous. Regardez les disciples. Quand ils annoncent que des choses vont se passer, qu'est-ce qui les intéressait? Qu'est-ce qui les intéressait? Le rétablissement du royaume d'Israël. Et en pensant au royaume d'Israël, ils pensaient à un gouvernement. Oui, c'est ça. Il dit, est-ce en ce temps-là que tu vas rétablir le royaume? Parce que tous les Juifs attendaient le rétablissement du royaume d'Israël. La défaite des Romains qui les dominaient, qui les oppressaient. Et surtout, n'est-ce pas, la mise en place, n'est-ce pas, d'un royaume d'Israël puissant et fort. Donc déjà, Jean et Jacques ont fait le calcul. Un jour, ils se sont battus. Ils disent, mais qui va s'asseoir à la droite et à la gauche? Vous vous rappelez? Donc ils se sont dit, tiens, parce que pour eux, c'était immédiat, dans les mois qui suivent. Donc Pierre s'est imaginé ministre des Affaires étrangères. Vous voyez que, depuis je l'ai dit dimanche passé, nos rapports avec le Saint-Esprit ou avec Dieu est un rapport trop intéressé. On pense aux choses immédiates qui nous concernent. Donc quand on dit de faire ceci, on pense d'abord à nous. Moi je vous dis une chose, c'est vrai. Dieu ne peut prendre le crédit de personne et ne doit à personne. À chaque fois que vous investissez pour lui, de votre temps, de votre énergie,
À chaque fois que vous parlez de lui autour de vous, regardez, asseyez-vous et imaginez ces personnes-là. Vous voyez que toujours Dieu les fait monter. Vous ne perdez pas votre temps à l'église. Si quelqu'un a l'impression qu'il perd son temps à l'église, vraiment, je pense qu'il s'est trompé d'adresse. Je vous dis, vous ne perdez pas votre temps à l'église. Le temps où on disait que les chrétiens sont les derniers est terminé. Dieu veut vraiment élever ses enfants. Il a besoin des personnes qui sont disposées. Mais malheureusement, on est comme les disciples. Ne pensons qu'à notre propre intérêt. Est-ce que c'est moi là que tu as établi le royaume de Dieu? Le Seigneur lui dit, c'est pas ça. Je vous dis, mais pas quand. Mais vous recevez une puissance. Alléluia. Vous voyez, la promesse du Saint-Esprit était plus importante que la promesse ou que le rétablissement du royaume. Vous voyez la différence maintenant? Vous comprenez ce que je veux dire? Je rappelle, je prends ma phrase. La promesse du Saint-Esprit, la venue du Saint-Esprit était plus importante que la réalisation ou l'établissement d'un royaume. Ça veut dire quoi concrètement dans ce passage-là? Il dit, l'action du Saint-Esprit en nous est bien plus importante, n'est-ce pas, que les choses matérielles. Quelqu'un en train de me dire, pasteur, toi tu as une bonne situation, très bien. Mais la base, Dieu était la base de ma vie. Il peut te donner une situation stable. Si Dieu est la base de ta vie, il peut le faire parce qu'en fait, Dieu est dans sa parole, c'est clair. Donc il dit, c'est vrai, ce que tu cherches, c'est bien. Ce que vous voulez, c'est bien. Mais, alléluia, conjonction de coordination opposant ou même montrant l'opposition. Toi, tu as fait l'être moderne, non? Mais. Mais ou don, or, ni car. Quand on met le mais, ça veut dire ce qui a été dit est bon, mais il y a des limites. Est-ce en ce temps que tu vas rétablir le royaume de Dieu? Il dit tout ça, c'est bon. Mais, vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. En clair, quand le Saint-Esprit vient, il fait de nous des témoins. Maintenant, quelque chose que je vais dire. C'était bien pour Pierre, Jean et Jacques d'avoir un royaume établi. C'était bien pour les apôtres d'avoir le royaume d'Israël établi. Mais de vous à moi, quand le Saint-Esprit est venu, est-ce que Pierre restait pauvre? Est-ce que les gens étaient pauvres? Est-ce qu'ils n'avaient pas l'autorité nécessaire? Ils ont parlé avec des rois. Ils ont parlé avec des gens qu'ils fuyaient. Donc quand Dieu dit mais, si tu t'engages pour lui, ce qu'il va faire pour toi sera supérieur à ce que tu voulais faire pour toi-même. Il faut dire amen avec moi. Tape tes pieds, tape tes pieds, tape tes pieds, tape les pieds. On est ensemble. Le pied, ça veut dire, on est le casque du salut, c'est pour courir. On est prêt pour courir. En fait, c'est ça qui est la vérité. La révélation qu'on peut avoir, c'est celle-ci. Quand nous nous engageons pour Dieu, ce qu'il fait pour nous est nettement supérieur à ce qu'on pensait réaliser. Mais je le crois de tout mon cœur. Je vous assure, chaque fois que je m'assois et que je réfléchis au trajectoire de ma vie, je bénis Dieu. Je ne suis pas très sûr de tout mon cœur que j'aurais pu avoir le résultat que j'ai eu. Mais je, même pas dans mes rêves. Dieu est tellement bon qu'il m'a caché ça. C'est dans le dernier moment qu'il a commencé à me dire ce que j'allais être. Même pas penser à cela. Et ça montre que si vous engagez pour lui de manière réelle, il va vous propulser. Il va vous propulser. Chers frères et chers sœurs, chaque fois que quelqu'un vous parle, avant de croire à ce qu'il dit, pensez si ce qu'il dit est vrai. Pensez à cette personne elle-même. Si elle a un témoignage crédible, croyez à ce qu'elle dit. Si mon témoignage est crédible, si la grâce que Dieu m'a accordée est crédible, ce que je dis est crédible. Il n'y a pas une personne qui s'engage à fond. Il n'y a pas une personne qui sème de l'argent pour faire avancer le royaume de Dieu et qui reste dans la galère. Ce n'est pas possible. C'est que ce n'est pas à Dieu, ça a été fait. Ce n'est pas possible. C'est que ce n'est pas à Dieu. Il a dit, mais vous recevez une puissance. C'est du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Quand le Saint-Esprit vient, il fait de nous des témoins. C'est qui un témoin? C'est celui qui a vu et qui a entendu. Mais aussi celui qui porte un témoignage, qui cherche à manifester la vérité. Nous sommes là pour manifester une vérité. Notre Seigneur est le chemin, la vérité et la vie. Nous cherchons à poser des actes. Chers frères, chers sœurs, les témoins étaient tellement puissamment convaincus que ces personnes ont posé des actes graves. On n'a pas le temps de le voir, on verra ce dimanche prochain. Les témoins dont parle Jésus-Christ n'ont pas seulement parlé ouvertement de lui. Ils ne priaient pas seulement. Ils ne louaient pas seulement. Ces personnes ont fait des offrandes sacrificielles. Ça m'a étonné dans Actes des Apôtres. Parce que chaque fois qu'on parle d'Actes des Apôtres, on parle de parler en langue. On parle de prophétie, de prière. Mais regardez ce qui est écrit ici. La puissance de Dieu était tellement réelle que des gens vendaient leur maison, vendaient leur bien pour faire quoi? Déposer l'argent aux pieds des apôtres. Parce que la conviction était forte. Ils savaient que c'était vrai. Et il fallait que le règne de Dieu vienne. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Un jour, David dit ceci. Prenez ça avec moi dans 1 Chronique. Parce que je vais vers la fin. Dans 1 Chronique. Ça sera le dernier passage. On va revenir sur ça demain prochain. 1 Chronique, chapitre 21, verset 24 à 30. Il est un peu long, mais il est important. Je vais insister sur comment il nous convainc. Il fait donc des témoins. Chapitre 21, verset 24. Ouf. Mais le roi David dit à Arnon, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Amen. Il ne va plus le dire. Je ne ferai rien, je ne ferai pas de l'Holocauste qui ne m'a rien coûté. Il écrit quoi chez toi? Je ne ferai pas quelque chose qui ne m'a rien coûté. Vous avez entendu? Je vais expliquer le contexte. Je vais revenir sur ça dimanche prochain. Dieu avait frappé Israël pendant 3 jours de plaie à travers pas la lèpre, l'autre maladie, là, comment ça s'appelle? Quoi? La maladie, elle, là, j'ai oublié, oh là là. La peste, très bien, merci bien, à travers la peste. Et l'ange de Dieu est descendu, David l'a vu, le prophète lui a dit, fais une offrande à Dieu. Fais une offrande pour arrêter la plaie, arrêter, fais une offrande. Et bâtis un hôtel. David pleurant. Un homme lui montre un champ et une montagne. Il dit, voici, va faire ton holocauste, va faire ton offrande pour que la plaie s'arrête. Prends un cadeau. David dit, je refuse. Il dit, je n'offrirai rien à l'Éternel qui m'a écouté. Vous voyez que quand la situation est grave, même au plan spirituel, le Saint-Esprit peut t'amener à poser quelque chose de grave. David dit, je ne ferai rien qui m'a écouté. Donne-moi la valeur de ce champ, je l'achète. C'était une montagne. Écoutez très bien, on n'a pas le temps de tout lire. Si je vous donne la suite, cette montagne s'appelait Morija. Cette montagne s'appelait Morija. David l'a acheté très cher. Et sur le mont Morija, David a bâti l'autel et la plaie s'est arrêtée. Il faut dire Amen. C'est sur la montagne Morija que le fils de David, Salomon, a bâti la maison de l'Éternel. Est-ce que tu as la révélation? On dirait que tu n'as pas compris ce qu'il a dit. Or, dans le chapitre 22 de Genèse, c'est sur la même montagne que Abraham a livré son fils Isaac. Donc chaque fois que Dieu te demande de faire une offrande sacrificielle, il a réservé pour toi quelque chose de gigantesque qui dépasse ton entendement. Je dis, le Saint-Esprit nous amène à faire des offrandes sacrificielles. Ça s'est passé avec Joseph Ananias. On va s'arrêter sur cela. Lève-toi maintenant. Bienvenue Saint-Esprit. Oh, ce matin, dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh, dis Seigneur, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Convainc-moi. Je ne veux pas qu'on me force à faire des choses. Je ne veux pas. Je ne veux rien faire qui m'est. Je veux sentir les choses, ta présence. Et quand Dieu te parle, tu vas le savoir, ça va être très clair. Il va t'amener à faire des choses auxquelles tu ne penses pas. Même dans ta folie religieuse, tu ne peux pas le faire. Quand il te convainc, comme David. Quand il te convainc, comme l'a convaincu Abraham. Quand il te convainc, comme l'a convaincu Barnabas. On verra ça dimanche prochain. Barnabas. Comment il a convaincu des gens? Comment le royaume de Dieu a été bâti? Avec l'action du Saint-Esprit. Sans que personne ne soit forcé. C'est parce que l'église était en feu et en flamme. Ce matin, dit, je vais être en feu et en flamme. Je vais être en feu et en flamme pour toi. Je veux être ce chrétien-là paresseux qui ne peut pas prier, qui ne peut rien faire. Dieu ne te parle jamais. Dis-moi, je n'ai jamais de révélation. Ce n'est pas vrai. Tu es rempli de nourriture, c'est tout. Ce matin, dis, je vais te remplir du Saint-Esprit. Il va t'enseigner. Dis, Saint-Esprit, enseigne-moi. Quand il dit, mais quand je lis la Bible, je ne comprends rien. Dis ce matin, ouvre mes yeux, Seigneur, pour comprendre ta parole.
Bienvenue au Saint-Esprit.
Oh, ce matin, dit Saint-Esprit, bienvenue.
Bienvenue au milieu de nous. Bienvenue.
Préparation que nous faisons.
Bienvenue
pour que nous sentons le désir ardent d'avoir cette communion afin que cesse la vie chrétienne forcée. On est forcé à prier.
Bienvenue.
On est forcé à faire des offrandes. On est forcé à tout faire. Le Saint-Esprit vient et il fait de nous des champions. Il nous met en feu et en flamme pour le royaume de Dieu. Il nous propulse à un niveau supérieur. Oh, je le crois, je le crois, je le crois, je le crois. Je veux une église en feu, une église réveillée, une église puissante, une église debout, des hommes et des femmes qui prospèrent. Je suis en train de creuser ton ventre. Un peu comme quelqu'un qui doit manger, qui fait du sport. Quelqu'un qui va manger, qui va se purger. Il creuse son ventre. Et puis mange bien maintenant. Je creuse ton ventre pour que tu aies faim et soif de Dieu. On aura l'occasion de prier pour vous plus tard. Mais je creuse votre ventre. Je crée en vous la soif. Et vous vous rendez compte qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez pas le faire vous-même. Vous sentez que ça ne va pas. Pour tout ce qui est au royaume de Dieu, vous vous sentez forcé. Vous sentez forcé de prier. Tu te sens forcé de lire la Bible. Tu fais tout par la. Tu peux pas, même quand tu es offrant, tu te sens forcé. Même ta petite dîme, la 10% là. Tu as du mal à tourner. Tu te sens forcé. C'est que ça ne va pas. Dis ce matin au Seigneur, Saint-Esprit, besoin de toi. Aspire ardemment. Dans la semaine qui arrive, moi, je vais prier pour vous. Vous allez voir, tu vas se glorifier. Mais et cette soif là. Si ta vie chrétienne ne te satisfait pas. Si ta vie chrétienne ne te satisfait pas, tu sens que tu es superficiel. Tu sens que tes mains sont liées, tes pieds sont liés. Tu es comme paralysé. Dis ce matin, cet esprit, j'ai faim et soif de toi. Oh Dieu, merci parce que tu le fais. Pendant que nous prions, prends la Sainte Seine. J'ai fait exprès. Mais je veux vraiment que la soif vienne, que la faim vienne. Et des fois, tu as envie d'aller prier, tu as envie d'aller jeûner, il faut le faire. Mais tu peux même gêner quand tu jeûnes, quand tu travailles au bureau. Et moi, je l'ai fait quand je travaille, aucun problème. Il y a des signes extérieurs qui vont t'apparaître. Il y a des signes extérieurs qui vont t'apparaître. Dans ton cœur, tu as envie de gêner, prier alors que tu travailles. Vas-y, il faut le faire. Tu te réveilles à 4h du matin, tu n'as plus sommeil. Et à qu'est-ce qui se passe? Non. Dieu te dit, voici, voilà. Il y a des choses à te révéler, il faut le faire. Et au fur et à mesure que tu vas le faire, tu vas te rendre compte que tu as les choses qui se passent en toi. Je le dis et je le répète encore, ça ne va pas vous empêcher de prospérer, ni de réussir dans vos études. Moi, j'ai réussi jusqu'au top niveau. Afrique, top niveau. Réussis partout, c'est fait. Donc, tout ce que je vous dis là, ça ne peut même pas être un obstacle à quoi que ce soit. Au contraire, je crois que Dieu nous propulse à un haut niveau. Et chaque fois que tu sens dans ton cœur la faim et la soif de Dieu, c'est que tu n'es pas loin de toucher à un niveau supérieur ou d'atteindre un niveau supérieur. Et Dieu veut te faire passer à un niveau supérieur afin que tu sentes que ta foi chrétienne n'est pas une foi de religion et qu'autour de toi, dans ton bureau, les hommes et les femmes soient saturés par ta présence. Quand tu pries, les gens sont convaincus. On dit, c'est toi qu'il faut. Le DG t'appelle, il dit, mon âme, ceci, il faut prier. Parce que quand toi, tu pries là, Dieu, écoute, tu as prié. Et on va savoir que toi, tu es différent. Pourquoi? Mais parce que tu enflammes tes voisines de quartier ou de bureau m'ont dit, Mandaou, monsieur, toi tu es évangélique, non? Toi tu es pasteur, non? Faut prier. Et quand tu pries, la femme est guérie, son enfant est guéri. On dit, ah, ton Dieu m'utilise alors. Oui, Dieu t'utilise, même dans ta société. C'est possible.
désir après cela. Dis à Dieu, tu veux être un point de contact et tu veux saturer ton environnement, ton bureau, ton travail. Si on cherche des hommes et des femmes justes, qu'on trouve en toi la femme qu'il faut, l'homme qu'il faut. Parce que toi, tu représentes un royaume. Tu es un royaume que tu as. Tu es un prince et une princesse de Dieu dans ta société. Et la connexion pour toi, c'est que toi, tu es la personne qui ouvre les portes à la grâce de Dieu. Soupire après cela. Désire ça ardemment. Afin que dans ton travail, tu sois le champion que tu veux que tu sois. Non seulement tu es brillant et tu es brillante au travail, au plan spirituel, tu es la porte. Amen. Amen. On va venir prendre la Sainte Seine. Pendant que tu prends la Sainte Seine, dis ça à Dieu. Dis à Dieu, je vais t'enflammer pour toi. Enflammer pour toi. Oh Seigneur, merci pour ce séminaire que nous commençons. Que ta puissance se manifeste et que effectivement nous serons des hommes et des femmes enflammés. Que les gens te reconnaissent au travers de nos vies. Spirituel, qui brille au plan social, qui brille au plan intellectuel, qui brille au plan professionnel, qui brille dans les affaires. Et quand ton esprit est venu, les pieds, les gens qui étaient des hommes ordinaires, des Galiléens, des quasi analphabètes, ont brillé. Oh Dieu, ici, ce sont des hommes et des femmes qui brillent, Et que ta parole touche les vies, effectivement, Seigneur. Et que ceux qui travaillent dans leur service soient des points de contact avec ton royaume. Qu'accord des femmes qui travaillent ici, des hommes qui travaillent, les services, les directions d'entreprise soient changés, soient transformés. Qu'on dise, madame, quand je te vois, je vois la flamme de Dieu en toi. Monsieur, quand je te vois, je vois en toi la flamme de Dieu. Prie pour moi. Père Céleste, quand dans cette église soit levé des géants et des géants de foi. Des hommes qui connaissent les dieux, qui parlent avec assurance. Des hommes et des femmes qui prospèrent effectivement. Et qui sont des lumières qui brillent. Oh Dieu, je veux une église puissante. Une église brillante. Une église en flammes et en feu. En fait que la nation soit embrasée, que la Côte d'Ivoire soit touchée. Je veux des hommes et des femmes qui prospèrent. Des multimillionnaires, même des milliardaires. Que tout ce qui touche, Seigneur, soit transformé. Parce que ton Esprit Saint fait de nous des hommes et des femmes différents. Tu fais nous des témoins, c'est qu'on soit témoin de toutes choses. Au nom de Jésus. Amen.